Où sachons chercher le chercheur Marie-Odile Monchicourt, bonsoir. Mon chercheur de ce soir, eh bien, vous le connaissez tous. C'est un homme qui, à un moment donné de sa vie, a révolutionné aussi bien le monde de la médecine que celui de la psychiatrie, et ceci grâce à sa curiosité, sa volonté de faire et peut-être aussi à sa marginalité. Vous le connaissez parce que vous avez tous entendu parler des tranquillisants et qu'il fut celui qui, en 1951, s'intéressa à la molécule qui deviendra, en effet, le premier tranquillisant au monde, la chlorpromazine. Vous le connaissez peut-être aussi pour l'avoir lu, parce que mon invité de ce soir est aussi un écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages, et sinon, eh bien, vous le connaissez peut-être soit par la radio ou par la télévision, car c'est un grand habitué des médias, ou encore par le cinéma, car il fut l'auteur, avec Alain Resnais, d'un film qui, à l'époque, en 1980, a fait énormément parler de lui. Vous vous en souvenez probablement, il s'agissait de « Mon oncle d'Amérique », Henri Laborie. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le laboratoire d'œtonologie à l'hôpital Boussicault. Tout de suite, il faut préciser ce que cela veut dire, œtonologie.
Oh, c'est une longue histoire. Comme j'ai vécu pas mal de temps dans la marine et que j'avais ce laboratoire à Boussicault, à partir de 1958, que je formais dans ce laboratoire des médecins et des pharmaciens de la marine à la recherche, alors j'appelais ça le laboratoire d'agressologie. Puis alors on m'a convoqué un jour à la direction centrale et on m'a dit agressologie,
ça fait agressif.
Ça fait agressif, ça fait penser à la bombe atomique. Alors vous savez, les militaires sont pas tellement bien vus, il faudrait trouver un autre nom, moi j'en ai pas d'autre. Donc on a demandé à un épistémologue, professeur à la Sorbonne, ancien médecin d'ailleurs, et qui est célèbre, c'est monsieur Canguilhem, de trouver un mot pour ce que je faisais. Ce que je faisais au fond c'était de ne plus m'occuper de la lésion organique, mais de la réaction organique à une agression. Alors il a donné, dans un long rapport de 18 pages, il a proposé un certain nombre de noms, mais finalement il a dit, le mieux quand même, qu'est-ce que veut faire Laborie, c'est maintenir un tonus normal, tonus pris dans le sens très littéral d'équilibre biologique.
Oui.
Alors là, à l'encontre d'agressologie où il y avait une racine grecque et une racine latine, il dit, ben là on a deux racines grecques, le tonos et le logos, et œtonologie me semble approprié.
Oui. Donc ça veut dire de l'équilibre.
Voilà.
Oui.
La recherche de l'équilibre.
Alors pour vous présenter Henri Laborie, je vous propose un retour en arrière, une bande sonore qui vous replongera dans l'ambiance du film de Resnais, qui fait un grand succès puisqu'il a fait 2 millions d'entrées et puis qu'il a remporté aussi la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
Professeur Henri Laborie, né le 21 novembre 1914 à Hanoï, Indochine. Père, médecin des troupes coloniales, lycée Carnot à Paris, école principale du service de santé de la marine et faculté de médecine de Bordeaux. Docteur en médecine, interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux, maître de recherche du service de santé des armées. Introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle, la chlorpromazine, le premier tranquillisant, ainsi que d'autres drogues à action psychotrope. Travaux sur la réaction de l'organisme aux agressions qui ont apporté des solutions nouvelles à l'anesthésie et à la réanimation. Dirige à Paris le laboratoire d'œtonologie. Auteur de nombreux ouvrages sur la biologie.
J'ajouterai aussi qu'il est d'origine vendéenne. La Vendée est ce pays auquel on a imposé la liberté, l'égalité et la fraternité surtout, en y faisant 500 000 morts. Il est cependant abonné au gaz et l'électricité de France, ce qui montre ses sentiments nationalistes. Et d'autre part, il est parfaitement adapté à une socioculture dont il a largement profité.
J'ai la voix cassée, c'est rigolo.
Oui, vous avez un peu la voix cassée, mais ça vous va bien, Henri Laborie, oui, absolument. Alors, dans ce film, vous avez en effet offert un curriculum vitae, et puis surtout, vous nous avez donné à voir certaines expériences que vous faites dans votre laboratoire, des expériences avec des rats, et...
Des lapins aussi, enfin, oui. Ou des souris,
dans j'ai le film, c'est surtout
sur
des rats.
Chien, enfin.
Oui. Et alors, vous mettez en parallèle les réactions de ces animaux avec les réactions humaines.
C'est oui, mais on a d'ailleurs dit souvent que j'étais béhavioriste, c'est-à-dire que je regardais un comportement et que je croyais que le comportement animal, celui du rat, était celui de l'homme. Bien sûr, Resnais s'est amusé, ça fait assez surréaliste, à mettre des têtes de rats sur ses acteurs à certains moments. Ça l'amusait. D'ailleurs, dans les cas qu'il a présentés, c'était pas tellement éloigné de la vérité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut quand même supposer que je sais la différence qui existe entre un cerveau d'homme et un cerveau de rat. Et d'autre part, il y a une chose que j'ai comprise,
oui.
C'est que le cinéma est forcément behavioriste, il ne peut montrer que des comportements. Donc m'accuser de behavioriste parce que je participe à un film, l'audiovisuel est incapable d'exprimer une conception abstraite. Il n'y a que le livre qui puisse le faire.
Pour vous, c'est une accusation, le behaviorisme ?
Si.
C'est une accusation ?
Ah oui, parce que le behaviorisme a été très à la mode à une certaine époque, il y a 20 ans. Corinne Lorenz, qui vient de mourir, était behavioriste, finalement, éthologiste, mais l'étude du comportement animal et humain, finalement. Et maintenant, c'est un peu en désuétude. Ça fait pas bien d'être behavioriste. Or, les behavioristes, comme les autres, ont apporté leur pierre à la connaissance et on ne peut pas les ignorer.
C'est un bon souvenir pour vous, le film de René ?
C'est un bon souvenir parce que René est un homme étonnant et que le film de René, c'est le génie de René. Mais d'un autre côté, c'est assez frustrant de passer 30 minutes de laïus, j'ose dire, pour exprimer 35 ans de travail. Ça, c'est un peu frustrant, il faut reconnaître. Et puis, que je l'ai souvent dit, René m'avait lu, me connaissait par cœur. Et même les choses assez difficiles, pas simplement mes bouquins de vulgarisation. Et que beaucoup d'images du film de René ne sont comprises que quand on a lu mes livres. Et alors, les gens sont partis de là en disant « Ah ben, je comprends pourquoi je fais une hypertension artérielle ou un ulcère d'estomac. » Je veux dire que l'hypertension artérielle de mes contemporains ou le ulcère d'estomac ne m'importe peu. Ouais. Et ils n'ont pas vu le fond du film qui, finalement, s'exprime et dit ce qu'on veut dire dans les 5 dernières minutes, comme dans les films de policiers que l'on voit les 5 dernières minutes.
C'est un film, en fait, qui est fait autour de ce que vous appelez l'inhibition de l'action.
Oui.
C'est essentiellement ça, le thème du film.
Mais l'inhibition de l'action, vue sur le plan individuel, et à quoi ça mène, pourquoi est-il inhibition, et à quoi ça mène sur le plan social, des États,
voilà,
des blocs d'États, etc. C'est-à-dire, on passe du plan individuel au plan sociologique global.
C'est-à-dire que je me souviens d'une scène dans laquelle on voit un acteur qui est Roger Pierre, qui travaille dans cette maison de Radio France d'ailleurs. Oui. Il entre dans son bureau et dans son bureau il n'y a plus de meubles. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est viré. Oui. Et alors là, il a une réaction que vous appellerez l'inhibition d'action ? Provoquée par l'inhibition
d'action, c'est quand on ne peut pas agir pour se faire plaisir. Quand on a un barrage qui s'établit devant soi, il y a plusieurs grands cas dans lesquels ça peut apparaître. Et quand on ne peut pas agir, l'action est, je dis aussi dans ce film, qu'un être vivant, quel qu'il soit, un homme comme un animal, est une mémoire qui agit.
Oui.
Quand on ne peut plus agir pour maintenir son équilibre œtonologiquement, ben on tombe malade. C'est alors là, nous avons quand même actuellement, surtout depuis 10 ans, j'ai commencé à le dire il y a aux environs de 72-74, mais maintenant ça ne fait plus de discussion. Le seul fait de ne pas réaliser son projet amène des bouleversements d'abord endocriniens et puis ensuite immunitaires qui font que on détruit son système immunitaire et que l'on est livré aux microbes et aux cellules cancéreuses quand elles apparaissent, etc. Toute la pathologie en dépend. Mais il fallait comprendre que j'ai pas compris tout de suite, ça n'a pas été évident pour moi tout de suite, pourtant j'ai étudié le choc, mais on faisait pas la distinction entre choc et stress. Le stress, on en parle, mais personnellement, je le définis depuis une dizaine d'années seulement, le stress, alors que j'étais très ami avec Ancelier, qui a introduit le terme en physiopathologie. Et il fallait comprendre que le rapport de l'individu avec son environnement social, quand il ne peut pas contrôler cet environnement, ou mieux de son plaisir, comme disait Freud, de son équilibre biologique, de la constance des conditions de vie dans son milieu intérieur, comme disait Claude Bernard, son homéostasie, comme disait Canon, ben quand il ne peut pas réagir, ça, il tombe malade. Et il tombe malade avec tout ce qu'il y a dans son système nerveux,
donc il y a des réactions biologiques.
C'est en cascade.
Oui, c'est ça. Henri Laborie, on va essayer aujourd'hui de découvrir qui vous êtes. Et je voudrais vous offrir... Nous non plus, on ne saura pas à la fin de l'émission, mais enfin quand même, on aura une approche, disons. Oui. Et je voudrais vous offrir une ambiance qui, je suis sûre, va vous rappeler des moments très émouvants de votre vie.
activité pas bon. Tentative d'évasion. Système pénitentiaire. Condamner l'accusé. À purger l'eau de peine.
Henri Laborie, non, vous n'avez pas été forçat, vous n'avez pas cassé des cailloux à Cayenne, mais vous étiez enfant et vous avez vécu là-bas.
Oui, mon père était médecin d'un hôpital de lépreux et dans la haute Guyane.
Oui.
Et effectivement, j'avais un forçat qui m'adorait, que j'adorais. Moi, à 5 ans, on ne réalise pas qu'il était forçat. Mais c'est peut-être, je le dis aussi d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai une certaine tendresse pour les forçats.
Il s'appelait Kéal, votre forçat.
Oui, il s'appelait Kéal. Vous avez de la mémoire. Hein.
Mais bien entendu. Et avec ce Kéal, eh bien, vous alliez, en compagnie de votre père, jusqu'à l'hôpital des lépreux. Vous preniez une pirogue et vous remontiez une rivière qui
s'appelait... La Carouanie.
La Carouanie. Et vous entendiez toute cette ambiance.
Oui, la nuit surtout. C'est la nuit qui est étonnante. Où je retrouvais après, parce que j'ai passé quand même pas mal de... d'années de ma vie sous les tropiques, mais dans le golfe du Bénin et ailleurs. Mais effectivement, pour un gosse de 5 ans, c'est quelque chose de merveilleux.
Alors, cette ambiance rappelle aussi une période que vous avez vécue avec votre père. Et votre père est un homme qui a beaucoup compté pour vous, surtout par l'image, parce que vous l'avez perdu lorsque vous étiez enfant, en Guyane d'ailleurs.
Il est mort du tétanos en Guyane, à 31 ans, où j'en avais 5.
Et toute votre vie, vous avez cherché à lui ressembler.
Oh, j'ai même pas cherché, Ma mère ne s'est pas mariée, mais on a parlé tous les jours pratiquement, et finalement, oui. Au début, j'ai essayé de lui ressembler, puis j'étais lui, très exactement. Et puis à 31 ans, je me suis aperçu que j'étais plus vieux que lui, tout de même, alors qu'il y avait quelque chose qui nous séparait. Mais j'ai été lui, vraiment, profondément.
C'est-à-dire que lorsque vous posiez votre regard sur les choses, vous aviez l'impression que c'était son regard?
Oui, parce que ma mère me l'avait présenté d'une certaine façon et que j'avais l'impression que je le connaissais très bien. Et je pense que j'ai pas eu à tuer mon père. C'est suivant l'expression psychanalytique, le meurtre du père. Pour devenir adulte, il faut dépasser son père. Moi, j'ai pas eu à le dépasser parce que j'ai été lui, puis qu'à partir d'un certain moment, c'est lui qui a continué avec moi.
Votre père était médecin militaire?
Médecin de colonial, oui.
Médecin
militaire, oui.
Médecin militaire. Et vous êtes devenu finalement médecin de la marine?
C'est la même école.
C'est la même école.
Oui, je suis sorti dans la marine parce que ma mère voulait pas me revoir partir. La vie des médecins coloniaux est une vie dangereuse à l'époque, vous savez. Elle m'a dit, je prends la marine. Moi, que j'aurais pu, avec la guerre, y rester encore plus facilement, je crois. Mais enfin...
Donc vous aviez un uniforme, Henri Laborie,
J'ai été en uniforme pendant 40 ans de ma vie.
Hein. Oui, mais c'est beau, enfin, l'uniforme des marins.
Oui, c'est assez joli, surtout pour les filles à 19 ans, je veux dire que ça compte.
Oui. Je voudrais que vous fermiez les yeux, parce que je pense que ça va toucher quelques cordes sensibles, ce que vous allez
entendre. Alors je ferme mes yeux.
Au-delà des orages, au-dessus des frontières, dessinées sur la terre, et je retrouverai un lointain passage où les oiseaux-lumière sortiront de la nuit. pour pouvoir m'envoler, pour tout recommencer, tout comme un phénix. Moi, je me tremperai et je ferai pareil, je brûlerai ma vie, ma vie.
Henri Laborie, vous avez écouté cette voix religieusement, vous l'aimez?
J'adore la voix d'Eva, oui. Et figurez-vous qu'il y a bien longtemps déjà, j'avais été invité à la télévision pour ce qu'on appelait à l'époque l'invité du dimanche. Et je devais inviter des gens que j'appréciais. Et j'avais invité Eva qui n'a pas du tout compris pourquoi un pseudo-scientifique s'intéressait à elle.
Elle était très flattée, je suis sûre.
Je ne sais pas si elle a été flattée, mais moi j'ai été très flatté parce qu'elle a un timbre étonnant.
Si je devais résumer en deux mots, ou même en un mot, Henri Laborie, votre vie, je dirais travail, parce que vous avez énormément travaillé dans votre vie professionnelle.
Pas moi.
Pas vous ?
J'ai jamais travaillé. Si, j'ai passé quelques concours qui m'ont demandé un effort, mais en dehors de ça, je me suis toujours amusé. Je n'ai pas travaillé.
C'est-à-dire que pour vous, votre travail, c'est votre passion, quoi.
Oui, je m'appelle ça travail pour... Je ne fais pas des roulements à billes.
Mais vous savez, on peut travailler en s'amusant, ce n'est pas interdit.
Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est moi. Et mon travail était de s'intéresser à moi, à comment je fonctionne, comment c'est là-dedans. Et c'est ça qui fait que j'étais passionné par ce que j'ai fait. C'est pas un travail, c'est un amusement à ce moment-là.
Mais vous savez aussi faire beaucoup d'autres choses, puisque vous peignez ?
Oui. Ah ça, je peins encore assez souvent, oui.
Vous écrivez des poèmes aussi ?
J'ai écrit des poèmes beaucoup, puis maintenant j'en écris moins, parce que j'ai pas le temps, j'en écris plus. J'ai plus de temps. J'ai autant le peindre est encore une chose où on arrive à moins sentir la médiocrité. La poésie est une chose où la médiocrité se sent tout de suite.
On peut dire que votre mère a peut-être d'ailleurs joué un rôle dans tous ces talents que vous avez accumulés.
Ben oui, elle m'a fait vivre la musique, parce que j'étais bonne musicienne.
Et puis elle était hyper affective aussi.
Voilà, elle n'était que ça, absolument que ça, ça. Le raisonnement logique, pour elle, ça n'existait pas.
Et c'est elle, probablement, qui vous a influé, cette sensibilité très...
J'ai été élevé par des femmes. Et pour moi, à part mes amis d'enfance, que j'ai toujours, d'ailleurs, les hommes ont été pratiquement toujours des concurrents. Alors, c'est difficile de vivre avec des concurrents, tandis qu'avec les femmes, on est tout de suite bien. On sait qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il y a quelque chose qui passe. Quoi.
Et pourtant, ce soir, Henri Laborie, vous avez souhaité rencontrer un concurrent parce que vous avez invité une personnalité de votre choix et c'est un homme.
C'est vrai.
Et cet homme s'appelle Jean Lacouture. C'est un journaliste, c'est un écrivain. Vous ne l'avez jamais rencontré, c'est la première fois. Le voilà, il rentre dans le studio. Vous allez vous serrer la main, Jean Lacouture, Henri Laborie.
Je vous remercie d'être venu parce que vous aviez peut-être autre chose à faire. Mais quand on m'a posé la question de savoir qui je ne connaissais pas et qui je voulais connaître, je vous ai pris vous parce que je vous vois à la télévision, que vous m'avez peut-être vu aussi, mais...
On voit beaucoup de gens à la télévision,
oui,
y compris quelques-uns.
Mais je vous connais par vos livres. Le dernier m'a amusé parce que j'avais déjà amusé. Non, il n'est pas drôle. Hein. Mais il est très enthousiasmant parce que je connaissais un peu Champollion comme tout homme cultivé qui doit le faire. Enfin, c'est tout de même. Et qui s'intéresse en plus à l'histoire et à la préhistoire. Or, là, il y avait quelque chose de... C'est vraiment très, très étrange dans Champollion et vous l'avez rendu. Alors là, je n'ai pas terminé votre bouquin parce que c'est des bouquins qu'on ne peut pas avaler comme ça. Hein. Et je vais le faire en vacances. C'est un peu comme, vous savez, j'ai un bouquin que j'ai aimé beaucoup, c'est de Montaillier, La Pucelle. Bon, c'est pas des bouquins et pourtant je l'adore. Mais enfin, comme son précédent bouquin, Néropolis, ce sont des bouquins qu'on lit. On se remet. D'ailleurs, c'est tellement agréable de quitter le milieu, de revenir dans son milieu idiot tous les jours, et de revenir, de replonger dans l'ambiance où vous nous plongez, où des gens comme Montaillier nous plongent.
Jean Lacouture, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit de nombreuses biographies. On pense à Malraux, on pense à De Gaulle, trois tomes. On pense à Mauriac, Nasser
et
Mendès France et Ho Chi Minh. Mais alors, pourquoi Champollion ? C'est un personnage qui est très loin de tout cela. On a envie de vous poser la question tout de même.
Il l'a dit. Écoutez, il y a beaucoup de raisons. Vous savez, pourquoi on écrit un livre ? D'abord, on ne sait pas toujours très, très, très clair. Bon, moi, mes livres ne sont pas des livres d'aspiration. Un certain matin, on se frappe la tête en disant « je vais écrire ça » comme un poète peut écrire. J'imagine que Rimbaud n'a pas écrit « La saison en enfer » parce qu'il était programmé par un éditeur ou parce qu'il avait besoin de croûter à la fin du mois. Mais moi, les livres que j'écris sont des livres plus raisonnables, sinon plus liés à une certaine logique générale de l'existence. Mais il y a aussi les éléments de hasard, les éléments de passion et les éléments de ce que Henri Laborie a appelé tout à l'heure à diverses reprises le plaisir, qui est peut-être la pulsion la plus fondamentale de la vie et celle dont il s'occupe notamment. Et plaisir, je crois que oui, là, c'est assez clair chez moi, c'est que, ayant écrit pas mal de livres sur l'histoire contemporaine, l'histoire contemporaine, notamment le dernier consacré au général de Gaulle, il y a un certain moment où j'ai eu un peu le mal de mer et où j'ai eu besoin de sortir de ces turbulences à répétition qui se prolongeait après l'écriture du livre, par sa publication et par les contestations auxquelles il donnait lieu. Et il faut dire que la correspondance qu'on reçoit après les livres que j'ai écrits est quelquefois passablement troublante et passablement choquante. Donc d'ailleurs, la plupart des lettres sont plutôt d'encouragement, c'est vrai, mais enfin on reçoit des lettres qui vous remettent totalement en question.
Mais avec le général de Gaulle, Jean Lacouture, vous touchez forcément une sensibilité très vivace, tandis qu'avec Champollion, là vous n'avez plus aucun risque.
Aucun risque. Si vous connaissiez le monde des égyptologues, vous diriez qu'on prend toujours quelques risques à entrer sur leur terrain. D'ailleurs, j'entrerai sur le terrain des biologistes, ce que tout de même, là, je suis imprudent, d'un naturel un peu léger, mais quand même, je ne m'y hasarderai pas. L'égyptologie, parce qu'à vrai dire, j'ai une vieille liaison avec l'Égypte. J'ai passé 4 ans de ma vie en Égypte, à une époque tout à fait passionnante, entre 1952 et 1956, à l'époque du nassérisme, où les turbulences ne manquaient pas, mais ces turbulences ne m'ont pas empêcher d'aimer passionnément ce pays, de l'aimer en tout domaine, sa beauté, ses habitants, son passé, tout cela m'est resté accroché au cœur, à l'esprit, aux tripes, et j'ai souhaité revenir à l'Égypte, et on ne peut pas y revenir de meilleure façon qu'avec Champollion, parce que c'est vraiment l'homme trait d'union par excellence. C'est un homme de bonté, c'est un homme de compréhension, c'est un homme de connaissance et d'intelligence, et j'ai voulu le marquer par le sous-titre de mon livre, qui est « Une vie de lumière », et le mot de lumière...
Pourquoi au pluriel, Jean Lacouture ?
Parce que c'est la référence au siècle des Lumières. Je vous dirai, avec une très brève parenthèse, que j'ai le tort d'être un aficionado, et que les toreros habillent du costume de lumière, que j'ai beaucoup écrit, et que ce de lumière au pluriel est une chose que j'ai dans mon esprit depuis que je suis enfant, et que j'allais voir à Bordeaux autrefois avec mon père, qui était chirurgien des hôpitaux, comme Henri Laborit, qui a enseigné aux Navalais de Bordeaux dans les années précédant la guerre. Peut-être pas s'il a eu comme élève Henri Laborit, mais c'était donc un homme il était aficionado. Il m'a emmené aux arènes. Et donc, dans cette vie de lumière, il y a un tout petit peu de ce souvenir-là. Mais il y a surtout la référence au siècle des Lumières. Champollion est né en 1790. Il est né à la fin de ce siècle, qui a été vraiment le siècle des Lumières, de la connaissance de l'homme, de la volonté de compréhension de l'homme et entre les hommes, de l'affirmation que l'homme est un à travers non seulement à travers l'univers contemporain, mais à travers les univers, à travers les espaces infinis, qui peuvent remonter à des millénaires. Et ça, Champollion l'a apporté de façon plus décisive que personne.
Henri Laborie, vous écrivez à un moment donné « Le chirurgien est obligatoirement mégalomane. Le monde lui appartient. Il dit mon service, mes malades, mon anesthésiste, mes infirmières. »
Et ma salle d'opération.
Et ainsi de suite.
Et son territoire.
Alors vous, Jean Lacouture, dans un article qui est paru dans l'Expansion, je crois, en février 82, il y a un journaliste qui parle de vous en disant « après son Mauriac et son Malraux et son Mendès, etc. » Alors, est-ce que vous vous sentez mégalomane aussi, à force d'habiter la vie de tous ces hommes célèbres, de tous ces grands hommes ?
tous ceux qui écrivent, plus ou moins, sont mégalomanes, bien entendu. Mais je suis peut-être un tout petit peu moins que la moyenne, c'est-à-dire, en tout cas, je peux vous garantir que je ne me suis jamais pris pour aucun de ces hommes, vraiment. Non, d'ailleurs, d'une toute petite façon et par le bas, je me suis pu me prendre un tout petit peu pour Mauriac, dans la mesure où Mauriac était pour nous autres Bordelais le Bordelais par excellence de notre temps, que non seulement il était écrivain, ce dont je me sens relativement loin, mais il a voulu être journaliste, il a pratiqué le journalisme et de façon très précise, il allait au marbre du Figaro et de l'Express, et c'est un homme qui est entré, alors qu'il était couvert de gloire, il est entré dans ce métier qui n'est pas toujours glorieux, qui est souvent humide, qui est très, très contesté. Il a voulu faire ce métier, par quoi je me suis senti assez proche de lui. J'ai à deux ou trois moments eu des petits accrochages avec lui, nous avions des points de désaccord. Finalement, j'ai été tout prêt à me mettre à quatre pattes devant lui, mais tout de même à quatre pattes, mais en aboyant. Alors je lui ai un peu aboyé aux choses, si vous voulez. J'ai fait un peu le rat de Mauriac, je lui ai mordu ses souliers deux ou trois fois. Ça a créé des liens, si je puis dire. Et alors, je me suis quand même jamais pris pour lui, rassurez-vous. Et pour ce qui est des autres, de très loin, et surtout pas pour le général de Gaulle, qui est vraiment... Je suis le contraire, je suis un petit méridional amoureux du bonheur, et le général de Gaulle était un grand nordique amoureux de la grandeur. Ça n'a vraiment aucun rapport.
Quelques voix qui vont certainement vous rappeler de grands souvenirs pour vous, Jean Lacouture.
Mon enfance m'apparaît comme un monde si confus et si fourmillant qu'il m'est très difficile d'en détacher des souvenirs précis.
J'ai toujours eu l'impression que rien n'était plus important, plus passionnant que le combat pour l'intérêt du grand nombre, pour l'intérêt de la collectivité à laquelle on appartient.
Il y a aussi ceux qui parlent d'après-gaullisme. Il est grand temps de comprendre qu'il n'y a pas d'après-gaullisme contre le général de Gaulle.
Le moment où je suis de ma vie, c'est-à-dire dans mes dernières années, J'ai le sentiment de me trouver sur une plage, au bord d'un océan. Celui qui peut vous porter, vous, les chercheurs, vous les professeurs, vous les étudiants, qui peut vous porter vers les rivages de la découverte. Et afin de gagner à partir de là, avec nous tous, pour vous suivre, les terres inconnues du progrès.
C'est le miracle de la radio, Jean Lacouture, des voix qui vous sont chères, celles de Mauriac, Mendès France, Malraux, De Gaulle.
Vous avez dit, des voix très chères, en effet, très touchantes, et chacune exprimant merveilleusement la personnalité du personnage. Je viens de relire mes quatre livres en quelques secondes, si on peut dire. C'est tout de même beaucoup plus commode que de les lire d'un bout à l'autre, ce que les pauvres lecteurs sont obligés de faire, enfin, se croient peut-être obligés de faire.
Vous avez écrit combien de livres, vous?
Celui-là, c'est le 30e, là. Mais j'en ai écrit quand même une bonne...
Autant, oui, autant que vous, Jean Lacouture, combien vous?
Une trentaine aussi, à peu près.
Ça, non, mais il y en a qui sont illisibles, en dehors des initiés. Il y en a une bonne... Il y en a 15 ou 17, je sais combien, d'ailleurs, qui sont... qui ne sont pas pour le grand public, hein, qui sont vraiment très spécialisés.
Moi, je dis, il y en a de moi qui sont illisibles par les initiés.
Alors, Henri Laborie, je voudrais vous poser une question qui est peut-être en relation avec les sources d'intérêt de Jean Lacouture. Je voudrais savoir si les guerres ont une explication biologique. Est-ce qu'on peut expliquer les guerres par l'inhibition de l'action aussi?
L'inhibition de l'action, elle commence à l'individu, mais l'individu n'est jamais seul, un homme n'existe pas, ce n'est pas intégré dans un groupe, et un groupe, c'est une structure, il s'établit des relations entre les individus, grâce à un cerveau, donc on l'oublie toujours ce cerveau, sans cerveau il n'y a pas de relation humaine possible. Alors quand un groupe existe, il essaie aussi de maintenir sa structure, et comme en général il rencontre, soit dans son territoire, ce qui... Il dit être à lui, parce que c'est rempli d'objets gratifiants. Il rencontre une opposition d'autres. Alors à ce moment-là, il y a l'agressivité entre les États est basée sur les mêmes pulsions. que les l'agressivité entre les hommes, quand on ne peut pas réaliser son projet, c'est à l'autre qu'on s'adresse. C'est le bouc émissaire de René Girard. C'est dommage parce que finalement, on s'arrête en chemin. L'individu, il a la même finalité que l'espèce, c'est-à-dire survivre. Et malheureusement, il est intégré dans des groupes qui, eux aussi, veulent survivre, et toujours contre l'autre groupe. On ne fait l'unité nationale, remarquez que contre une autre unité nationale. Et finalement, vous ne touchez pas la patrie, ça ne se touche pas. Hein? Mais oui. On mobilise des millions d'hommes, et des millions d'hommes sont morts pour des concepts qui, biologiquement, sont assez discutables. Hein, comme... Alors, aussi, on les explique très simplement, ça serait trop long, mais enfin je l'ai expliqué, j'ai écrit tout un livre, deux livres sur l'agressivité.
Il y a un homme qui s'est beaucoup battu contre l'agressivité et qui avait parfaitement compris ce problème-là. Il s'agit de Don Helder Camara, puisque Don Helder Camara s'est beaucoup battu pour supprimer la misère au Brésil, car il savait que cette misère était source de conflits, source de violence. Je vous propose de l'entendre. Source d'inhibition de l'action.
Malheureusement, la justice n'existe pas. Il y a des injustices partout, dans les pays sous-développés, dans les pays développés, et les injustices arrivent à être la violence numéro un, mère de toutes les violences. Alors, je pense que, personnellement, respectant, par exemple, ceux qui arrivent à faire les choix pour la violence armée, je préfère la violence pacifique. Parce que je pense que si nous sommes là pour prendre les armes des puissants, les puissants sont par définition bien plus compétents et ils ont bien plus d'armes que nous n'avons pas.
Moi, je fais partie du non-violent, vous savez, il y a le MAN.
Je rappelle Henri Laborie que Don Helder Camara était archevêque de Recife, qui est une ville au Brésil. Mais alors, quand il parle de violence pacifique, ça vous fait réagir comment?
La non-violence est une violence pacifique. La non-violence est une violence, mais elle ne s'accompagne pas de meurtre. Au contraire, elle le fuit. Et ça, vous avez un... tous les mois à peu près, vous avez un journal que je lis toujours attentivement, qui s'appelle, c'est l'expression du MAN, du mouvement non-violent, et qui vous explique comment on peut ne pas être violent et aboutir quand même à réaliser son projet. La violence, c'est la chose la plus inefficace qui existe et la plus facile à comprendre.
Comment vous réagissez, par exemple, en face de ce qui se passe à propos des versets sataniques?
Il y a
un déferlement de violence.
Mais non, je crois que j'ai l'opinion que tout le monde peut avoir. À savoir qu'un homme, dès son enfance, on lui infiltre dans le crâne des jugements de valeur, des préjugés, ça devient complètement inconscient. Et il ne peut pas réaliser qu'il n'est pas libre d'être autrement que la façon dont l'espace social dans lequel il a vécu l'ont fait. Si bien que quand on s'oppose à ce qui constitue son équilibre biologique, donc intellectuel aussi, ben, il devient violent. Et alors, je suis évidemment que je comprends pourquoi il y a des ayatollahs Khomeini. Ça ne veut pas dire que je les excuse. Je comprends les raisons qui font que les Juifs actuellement tapent sur les Palestiniens, que les Palestiniens envoient des cailloux sur les Juifs, tout ça s'explique très bien, c'est simple même. Seulement, ce qui est moins simple, c'est d'arriver à faire savoir aux autres, à l'ensemble des hommes de cette planète, pourquoi c'est comme ça, pour éviter que ça le soit.
Jean Lacouture, ça vous fait réagir ce que dit Henri Laborie? Vous êtes...
Je ne me proclame pas non violent. Moi, j'ai plus ou moins, dans une longue carrière de reporter et de journaliste, je dirais accepté la violence du monde, mais j'essaie de la dénoncer dans ses caractères les plus scandaleux, les plus collectifs. Pour ce qui est de l'affaire Roujdi, là, je pense que c'est dans des vers relativement simples à la fois de comprendre comment on peut être Khomeini et comment s'organise autour de Khomeini cette espèce de farandole de la dénonciation et d'une certaine folie fidéiste. Je crois qu'il faut rappeler que Pour le moment, c'est l'islam qui a ses débordements, mais il n'y a pas de religion qui n'ait pas connu de tels débordements.
Monothéiste.
En tout cas, la religion à laquelle je l'appelle. Oui, monothéiste, oui, probablement. Oui, peut-être, en effet. Oh, vous savez, les religions polythéistes, mon Dieu, je crois qu'elles brûlaient aussi des adolescents ou des femmes. Enfin, il me semble qu'au nom des religions polythéistes, on a pas mal massacré aussi. Mais enfin, nous assumons plutôt, nous, les religions monothéistes, et pour moi, j'assume plutôt le christianisme. Je veux dire, c'est pas la peine de se retourner très loin en arrière pour se rappeler que le christianisme a beaucoup massacré, brûlé, torturé, et qu'à la veille de la Révolution, et justement en plein siècle des Lumières, le chevalier de la Barre a été brûlé presque vif. On a bien voulu lui couper la tête juste avant de l'envoyer sur le bûcher, parce qu'il avait plus ou moins apostasié ou dénoncé le Christ, n'est-ce pas ? Il en avait fait moins que Rushdie.
Henri Laborie, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on entend là en ce moment ?
Le concerto pour ma joie numéro 4 quand même.
Et il est dirigé par qui ?
Ah, ça c'est le tête Karajan, d'habitude c'est...
Yehudi Menuhin.
Ah, c'est Yehudi !
Mais oui !
Que j'avais demandé.
Voilà, voilà. Et il est au violon et il dirige le London Symphony Orchestra de son Archer.
Oui, mais enfin, remarquez que j'ai la couture, ça me suffit quand même.
Du moins, vous ne pouvez pas attendre le 4e Brandebourgeois.
En tout cas, Jean Lacouture, vous écrivez à un moment donné, en vue de déchiffrer un homme, faut-il se demander où il est né, ou plutôt quand, ou de qui ? Les biographes n'ont pas fini d'en débattre. Alors, à cette question, est-ce que vous pouvez répondre, Henri Laborie ? Pour définir un homme, vous, quelles questions vous vous posez ? Peut-être pas les mêmes ?
Oh, si. Si, de quel milieu sort-il ? Quelle est son empreinte ? C'est-à-dire les 3 premières années de sa vie ? Qu'est-ce qu'on lui a appris ? Et ensuite, dans quel préjugé on l'a dirigé ? Quel jugement de valeur, etc. Je crois que, oui, son action à ce moment-là est beaucoup plus explicable. Seulement, cette question que vous posez est terrible. Parce que...
Faut-il définir un homme, déjà ?
C'est un être vivant. C'est un être vivant qui essaie de survivre.
Qu'on peut poser.
Non, mais ce qui me semble difficile, c'est que bien sûr qu'il y a une part génétique. S'il est grand, s'il est petit, s'il est blond, s'il est... Mais cette part génétique, pour moi, je ne détiens pas la vérité, je le répète une fois de plus, elle a une importance très relative, et que c'est tout ce qui va rentrer dans son cerveau par la suite qui fera la personnalité de cet individu. Et là, c'est pas indifférent de naître dans un milieu bourgeois du 16e arrondissement ou dans un bidonville de Nanterre. C'est pas la même chose, ou d'être un immigré. Alors, quand on voit le peu de liberté qui reste d'un individu pour construire sa personnalité, dans l'ignorance et l'inconscience totale de ce qui le détermine, on devient très tolérant. Moi, je crois que la tolérance, ça vient à partir du moment où on ne croit plus à la liberté, ou du moins si l'imaginaire est un moyen pour l'homme de prendre la fuite, alors à ce moment-là, c'est peut-être une certaine liberté de ne pas obéir, en fait, aux automatismes et aux carottes que la société vous tend.
Quelle part de responsabilité vous donnez à l'homme pour devenir ce qu'il
est? Ah non, là, moi, aucune.
Aucune.
Ah non, ça.
Et vous, Jean Lacouture?
Moi, si c'est la première fois vraiment que je me sens en divergence assez nette avec Henri Laborit, moi, je crois tout à fait à la liberté humaine. Ce qui me reste de christianisme en moi est tout à fait croit à la liberté de l'homme. Ça, je suis persuadé que l'homme est. Je veux croire que l'homme est libre. Enfin, je crois aux les grands classiques français, enfin, de l'homme Laborier à Corneille. Je pense que l'homme se décide. L'homme a une part de décision, en tout cas. Mais je ne suis pas biologiste et je ne suis pas scientifique, et je suis un infra-psychologique. Alors, j'ai quelques croyances, mais je suis probablement tort.
Mais vous savez, vous dites ce qui me reste de catholicisme ou de chrétienté. Alors là, je vais vous rappeler tout de même, parce que j'aime le Christ aussi, moi, parce que c'était extraordinaire. Mais quand il rencontre un petit jeune homme riche, et qu'il lui dit, le petit jeune homme lui dit, qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai fait tout ce que t'as dit. Il dit, bien, abandonne tout et suis-moi. Le petit jeune homme riche, il n'a pas suivi. Et le Christ, disent les apôtres, en s'éloignant, les mât. Parce qu'il savait qu'il était entièrement conditionné à ne pas le suivre, qu'il avait de la richesse, qu'il avait des tas de biens gratifiants et qu'il ne pouvait pas les quitter comme ça. Et alors là, il était libre, le petit jeune homme riche, bien sûr qu'il était libre de suivre le Christ. Mais le Christ, au moins, lui, savait qu'il ne l'était pas.
Grenadier, die waren in Russland gefangen, und als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen, da hörten sie beide die traurigen Meer, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenadier, wohl ob der kläglichen Kunde, der eine sprach, wie weh wird mir, brennt meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus. Auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage mein besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, gefangen. Gewähr mir, Bruder.
Henri Laborie. Là, ce sont aussi des souvenirs d'enfance.
Oui.
Quand vous chantiez vous-même.
Moi, j'ai chanté ce truc-là. Alors là,
alors
les
ce
deux
truc-là, c'est quoi?
Hein,
eh bien, ce sont les deux grenadiers de Schumann.
Et votre c'est mère... pas ce que je préfère de Schumann.
Votre mère jouait, vous jouiez du piano, et vous chantiez à côté.
Oui.
Voilà.
Oui, mais ça, je chantais tous les grands classiques.
Oui.
Lully, Rameau, Bach, Beethoven, il a quelques mélodies quand même, et puis Gluck, Handel, tous les oratorios, etc. Quoi. Enfin,
et vous avez encore envie de chanter quelquefois?
Les passions, Heine avec la création, etc. Enfin, bon.
Vous chantez quand vous
non,
prenez
jamais.
Votre douche,
je
non
suis maintenant et j'ai... Et puis, il y a 30 ans que je ne chante plus. Ma femme m'a accompagné pendant longtemps parce qu'elle est bonne pianiste. Et tant que j'étais dans des maisons... Hein, sous les tropiques, avec un volume d'air suffisant, comme je suis baryton et que j'avais un certain volume de voix à l'époque, je chantais tous les soirs. Ça demande, le chant, ça demande pour chanter médiocrement, ça monte 2 ou 3 heures par jour. Alors tous les soirs, je passais 2 ou 3 heures à chanter.
Jean Lacouture, pour revenir à votre livre Champollion, vous avez écrit un livre énorme parce qu'il y a je ne sais pas combien de pages, à peu près 600. Et donc vous avez passé beaucoup de temps à essayer de revivre cette époque, à essayer de revivre la quête de cet homme qui apprend à déchiffrer la pierre de Rosette et qui a un coup de génie finalement, on peut appeler ça.
C'est pas tellement la pierre de Rosette, parce que vous dites. Hein.
Non, en effet, la pierre de Rosette est ici un peu légendaire, elle est un instrument de travail constant, n'est-ce pas, sur les copies de la pierre de Rosette.
Il y a les trois langues quand même.
Était à Londres et Champollion n'est probablement jamais en Angleterre et il a travaillé sur des copies. Mais enfin, c'est plutôt l'Eureka de Champollion.
Se fait
sur deux cartouches de Ramsès et de Thutmès II qui ont été recopiées au temple d'Abou Simbel et qu'on lui a portées et qu'il a déchiffrées. C'est le moment de le grand coup de génie, le coup d'éclat, se passe à propos de ces cartouches. Mais c'est vrai qu'il avait auparavant longuement étudié la pierre de Rosette, comme tous ceux qui tentaient de déchiffrer les hiéroglyphes.
La pierre de Rosette a été l'un de ses outils. Mais quand on découvre comme cela une civilisation et qu'une civilisation prend forme, ça provoque quelque chose d'énorme. Il faudrait se remettre dans cette époque de Champollion quand tout d'un coup on commençait à prendre connaissance avec la civilisation égyptienne.
C'est pas tout d'un coup, n'est-ce pas? De même qu'aucun chercheur ou découvreur ne dit seulement une seule fois Eureka, il y a un peu des coups de projecteur. Tout le XVIIIe siècle, dont nous parlions tout à l'heure comme le siècle des Lumières, a été aussi le siècle des Lumières sur la culture égyptienne, sur la civilisation égyptienne, et progressivement, tel ou tel abbé, tel ou tel jésuite, tel ou tel philosophe, tel ou tel voyageur allemand, danois ou hollandais, marchait progressivement, aller vers la vérité, mais il y avait quand même toujours cet obstacle auquel on était, qui était fondamental, et qui était les hiéroglyphes. Sont-ils des dessins, ou sont-ils des signes phonétique. Est-ce qu'une oie veut dire oua, ou est-ce qu'une oie veut dire V ou B, n'est-ce pas? Et ça, il y avait des gens qui trouvaient des trucs, un morceau d'oie, si on peut dire, ou un petit signe ici ou là. Mais c'est Champollion qui a de tout ça fait un système. C'est lui qui a introduit l'esprit scientifique dans ce qui était jusqu'alors une sorte de grand picorement de poules dans la cour de la ferme.
On peut vous demander ce que Champollion vous a apporté à vous? C'est une question qu'on peut vous poser, Jean Lacouture.
Il m'a apporté des tas de joie, il m'a apporté l'amitié, je me suis fait un ami. Vous savez, pendant les biographies, dans pas mal de cas, on se fait des amis ou on confirme des amitiés. Champollion, je ne le connaissais pas avant. Donc là, vraiment, pour moi, à un âge relativement avancé, à un âge où on ne se fait plus guère d'amis, justement, on a heureusement des amis très fidèles auxquels je suis un dévot de l'amitié. Mais là, tout d'un coup, il m'est arrivé, la soixantaine arrivée, l'amour d'homme pour un homme. Donc, il aurait peut-être eu un petit peu un goût pour moi aussi, un petit peu. Nous avons un certain... Enfin, nous sommes du Sud-Ouest tous les deux. Nous aimons la... Je pense qu'il aimait le confidois comme je l'aime, ou le cassoulet. Enfin, il aurait sûrement joué au rugby, comme j'ai essayé d'y jouer moi-même. Quand on est né à Figeac, dans le Lot, certainement, il aurait été troisième ligne dans l'équipe de Figeac.
Moi, je voudrais poser une question à la Couture.
Oui, Henri Laborie.
Il semble que Champollion, d'ailleurs, ait étudié vraiment toutes les langues anciennes. L'araméen, le copte, etc., d'après ce que vous dites. Alors, je vivais encore, moi, sur cette notion que la première langue est sortie du croissant fertile, c'est-à-dire la première langue écrite, je dis bien. La première langue écrite, c'était l'écriture cunéiforme. Et comment se fait-il que les hiéroglyphes sont apparus si les cunéiformes étaient déjà là? Est-ce qu'on sait les rapports? Puisque ces civilisations étaient quand même très proches et contemporaines.
Oui, mais enfin, proche, l'Euphrate du Nil, c'est aujourd'hui, ça a l'air assez proche, et on y va en effet d'un coup d'avion en très peu de temps. À cette époque, ce sont vraiment deux mondes très, très séparés, très différents, et inspirés d'idées sur le monde, me semble-t-il, tout à fait différentes. Mais ce qui est un des phénomènes humains les plus étranges, en effet, c'est que l'écriture soit apparue à peu près au même moment chez les Sumériens et chez les Égyptiens, c'est-à-dire à peu près 32 siècles avant Jésus-Christ. Peut-être 33 chez les Sumériens, 30... et 31 ou 32 chez les Égyptiens, c'est quand même des rencontres tout à fait étranges. Je crois qu'il y a des rencontres comme ça. Et d'ailleurs, vous savez, je crois que le déchiffrement des hiéroglyphes s'est produit en 1822. C'était mûr. Il fallait que l'homme de génie finisse de pousser une porte qui est déjà très ébranlée, n'est-ce pas? Il a fallu le coup d'épaule de Champollion dans la porte, mais c'était dans l'air. De même que l'écriture, l'homme était venu à un moment où il était digne d'inventer l'écriture. Et il l'a inventé à peu près au même moment, entre le Tigre et l'Euphrate et sur le Nil, n'est-ce pas? Ça, c'est très saisissant. Il y a quelque chose là que je suis moins capable d'expliquer, mais que des historiens peuvent, au galop des historiens, peuvent donner des réponses.
Jean Lacouture, nous devons nous dire au revoir. Je rappelle le titre de votre livre, Champollion, une vie de lumière, édité chez Grasset. Et puis Henri Laborie, merci de nous avoir consacré cette émission. Je rappelle le titre aussi de votre livre, La vie antérieure, édité chez Grasset. Au revoir à tous les deux. Cette émission était réalisée par Anne Sécheret, assistée de Simone Depoux. Au revoir à tous.